Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Antiquissimo en plein soleil, en plein cagnard. Au milieu de la Pampa, non pas tout à fait, c'est le Mas des Tourelles à Beaucaire où nous étions l'année dernière et toujours avec Fabrice Bigot. Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors on est venu pour savoir si lors de cette nouvelle campagne de fouilles que vous avez bien entamée, déjà c'est la fin là.
C'est ça, on est sur la dernière semaine.
Et si vous aviez trouvé des choses intéressantes et de quoi enrichir notre connaissance de ce domaine.
Oui exactement, alors on est cette année sur vraiment la toute dernière campagne de fouilles. Enfin, le site il va passer dans une autre phase,
d'accord.
Sera la mise en valeur. Donc pour ces dernières campagnes de fouilles, on s'intéresse aux périodes les plus anciennes de la villa, à savoir essayer de restituer le plan de la première villa installée aux tourelles à l'époque augustéenne et essayer d'identifier le chef de cette villa, qu'on n'a toujours pas trouvé, et la pars urbana, donc la partie résidentielle du propriétaire.
Oui, parce que l'an dernier, on s'était focalisé sur la découverte des fours.
Exactement. Voilà. On a terminé l'année dernière notre campagne triennale, donc 3 années qui étaient consacrées vraiment à l'atelier, donc, au cours desquelles on a travaillé également sur d'autres problématiques en lien avec la villa. Mais c'était vraiment centré sur cette question de l'évolution de l'atelier de la villa. Et là, cette année, on s'intéresse un petit peu moins à l'atelier, bien que vous verrez qu'on a quelques découvertes qui sont très intéressantes. Mais surtout, on essaie de voir quel était le plan de cette villa, puisque dans le cadre de la mise en valeur, on va bien sûr procéder au remontage d'un certain nombre de murs pour que le visiteur puisse se promener sur le site et directement voir les vestiges. Mais aussi, on va travailler sur une restitution 3D. Pour ça, c'est intéressant d'avoir le plan exact de cette villa. On commence la visite ici, parce que justement, par rapport à cette question, mais que juste dans l'axe, on a ici entre ces deux murs une voie qui permet de desservir le site. Et en fait, il faut savoir que cette voie, dans le premier état de la villa, elle occupe une position centrale, elle dessert une grande cour. Il faut s'imaginer que le four qui est aujourd'hui conservé sous la toiture qu'on a sous les yeux n'existait pas cette période, vraiment autour du changement d'air. Et donc du coup, on restituait une villa avec un plan en U assez traditionnel, avec une aile qui était bien connue. Une aile qu'on plaçait quelque part entre les oliviers qui sont au fond de la parcelle et de l'autre côté de la route. Et c'est ce que vous avez vu en arrivant sur le site.
Oui.
De l'autre côté de Cyprès, de l'autre côté de la route, donc à l'est du site, on avait identifié un mur qui venait fermer notre villa. Donc ce plan en U qu'on supposait, on avait quelques indices. Et donc on a réalisé de nouveaux sondages pour essayer de retrouver les murs qui permettaient de fermer cette villa. Et donc si on avance sur ce chemin, on va pouvoir aller voir de plus près ces vestiges, puisqu'on a quelques indices qui nous permettent de confirmer nos hypothèses et qui nous ont apporté quelques données supplémentaires pour savoir qu'est-ce qu'on faisait dans cette aile nord de la villa.
Alors, petite question, est-ce que ça c'est une rigole ici ou non?
Alors oui, c'est un caniveau qui sert à évacuer l'eau qui tombe des toitures et aussi l'eau qui est évacuée. L'eau des thermes, donc on a les thermes qui sont installés sur l'aile orientale de la villa. Et donc toute cette eau est évacuée par un système de canalisation en tuiles vers l'extérieur du site. Probablement, puisque l'eau était une denrée assez précieuse, elle était récupérée et qu'elle servait ensuite à d'autres activités, notamment à l'irrigation.
Alors, on suit le guide. Vous n'avez pas eu trop de mauvais temps jusqu'à présent?
Non, franchement, on a eu de la chance parce qu'on a eu déjà un printemps pluvieux.
Oui, c'est ça. Vous avez évité les terres gorgées d'eau.
Bah, elles sont pas gorgées d'eau, mais elles sont suffisamment humides pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et en plus de ça, on a eu juste un orage la semaine dernière. Donc on s'est arrêté pendant une journée simplement. Mais comme on avait bien avancé les autres jours sur un terrain et puis sur un terrain qui était suffisamment meuble et avec des températures pas trop estivales, on avait pu largement compenser cette lacune. Donc voilà. Donc vous êtes ici vraiment devant la dernière zone qu'on est en train d'investiguer. Et comme je vous le disais en introduction, on a élargi la zone de fouille au nord dans le but de trouver les murs qui viennent fermer notre villa. Et vous voyez au pied des oliviers.
Oui, là-bas, on voit les sous-bassements.
On a vraiment les murs qui ont été très largement détruits, mais on voit conserver qui viennent fermer notre aile ouest de la villa. Et pour ce qui est de l'aile nord, et ben en fait, il faut s'imaginer que vous avez ici. Et ce mur qui venait se fermer ici, il y avait un angle qui se formait juste là, et que dans son tout premier état, la villa, elle a le mur qui est de façade nord, il est juste ici, il se prolonge là, et donc il va se prolonger jusqu'au dernier cyprès là-bas. Et donc en fait, le plan qu'on a un petit peu, qui n'est pas très droit, qu'on voit aujourd'hui, c'est lié à des phases de réfection. Dans toute l'occupation de la villa, en fait, pour s'imaginer que ces
parce
domaines.
Que là-bas, il y en a.
Exactement.
Oui, il y a eu des évolutions au cours
voilà,
du temps.
Ces domaines, là, la villa, elle est fondée, les murs qu'on voit aujourd'hui, ils sont installés à partir du changement d'air et ils sont modifiés jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, forcément, durant cette période, et l'exemple de Mas des Tourelles aujourd'hui est très évocateur, c'est-à-dire qu'il y a des réfections, des salles qui sont agrandies, modifiées. Et nous, on a tout ça sur deux ou trois assises de murs. Le jeu de l'archéologue, c'est de réussir à reconstituer ce puzzle pour savoir quel mur vient après lequel et de quand il date.
Le jeu de Lego.
Exactement. Et donc, comme c'est ce qu'on a fait exactement ici, c'est-à-dire que vous avez ici un mur de façade qu'on retrouve juste un lambeau ici, de l'autre côté il disparaît, et le mur qui ferme cette aile, on se retrouve. Dans cette aile, et la réponse pas plus tard que ce matin, on a trouvé une grande tranchée qui est creusée dans le terrain naturel, la terrasse de galets. Vous pouvez vous avancer.
Les fourmis sont d'époque aussi. Hein.
C'est ça. Donc ici, vous avez une grande tranchée. Et à côté de ça aussi, vous voyez, vous avez des fosses qui sont de forme circulaire. Et ça, on les interprète comme des fosses de récupération de dolium. Vous savez, les dolia, ces grandes jarres qui servent à la vinification. Très chères. Et au moment où on démantèle les chais viticoles, on va récupérer ces jarres. Et soit on va faire des fosses comme celle-ci, qui vont avoir une forme circulaire
pour les caler.
Ouais. Soit on va faire des grandes tranchées pour pouvoir les récupérer. Après, ça a été rempoyé dans d'autres chais, soit de la villa, donc un chais qui aura été déplacé, soit dans une villa voisine, pour pouvoir installer l'atelier de potier. Et donc, avec ces découvertes, en fait, ça nous permet de proposer que dans cette aile nord, on avait au rez-de-chaussée notre chef viticole. Et les objectifs là, sur les derniers jours de la campagne, ça va être de voir quelle est la densité des dolias, pour réussir à restituer le nombre de dolias qui ont été
excavés
en place là-dedans. Ouais. Voilà. Sachant que tout a été détruit lors de la construction du grand four du 18e siècle. Voilà. Et où était la parse urbana? Ça, c'est une vaste question. Après, on n'aura probablement jamais la réponse.
Alors, si vous n'arrivez pas à avoir la réponse à vos questions, les fouilles s'arrêteront quand même. L'année prochaine, il n'y aura plus de campagne.
Oui, parce que si on n'a pas la réponse à nos questions, c'est parce qu'on n'a pas les vestiges qui sont conservés. Là, il est possible, parce qu'on a d'autres cas de figure dans les villas de la région, que la parse urbana elle soit au niveau des étages.
Ah oui.
Forcément, comme nous, on n'a que les fondations, on ne voit pas ça. Et en plus de ça, vous voyez que le sol sur lequel on circule, c'est pas du tout le sol sur lequel il circulait au moment où ce chai existait. On est sous le niveau de circulation du sol. Parce que vous pouvez imaginer que ces dolias, ils font à peu près 1,60 m de haut. Donc du coup, ils arrivent à cette hauteur-là à peu près. Donc ils dépassent légèrement du sol. Et là, vous avez ici la base d'un pilier qui supportait la colonnade qui soutenait ce chai. Là, on n'est pas très loin du niveau de sol. Et quand ils ont modifié totalement le plan de notre villa, ils ont détruit tout, ils ont tout arrasé, tout décaissé, et ils ont reconstruit des bâtiments de la ville. Du coup, on a perdu ces premiers états de la villa. Ce qu'on a découvert cette année, c'est que très vraisemblablement, le propriétaire au IIe siècle, il ne vit plus ici.
Ah d'accord, celui dont on avait trouvé le nom sur les...
Exactement.
Voilà, d'accord.
Le domaine lui appartient, mais soit il a construit d'autres bâtiments qui sont plus au nord, donc sous la route, soit il a acheté une autre villa qui sert de partie... Et ici, on a que des activités qui sont artisanales et
rurales. Oui.
Ce qui est le cas aujourd'hui au Thomas des Touraines d'ailleurs. Donc, voici pour cet espace. Vous voyez, un espace qui est assez restreint, mais qui est très riche en informations. Et de l'autre...
Et alors là, je vous interromps deux petites secondes, vous avez trouvé des objets ou pas du tout?
Alors, oui, on a trouvé des objets dans ces fosses, notamment dans ce secteur. On a trouvé un objet qu'on interprète comme une herminette. Une petite herminette, donc c'est la herminette. C'est un outil agricole, un peu comme un piochon, vous voyez. Un piochon, mais avec une lame plate. Et ça va servir à couper des...
Des sarments,
oui. Pas des sarments, mais plutôt des éléments en bois. Ou alors, ça va servir aussi pour le travail du bois en général. Mmh. Les tonneliers, par exemple,
ils peuvent faire ça.
C'est comme une serpette, mais avec la lame qui va être au milieu d'être verticale, elle va être horizontale, vous voyez. Donc, ça, la spécialiste, on avait laissé cet objet, mais on va le préciser. Mais on avait certains objets, des lames aussi également. Et tout ça, bon, ça vient de sortir.
Point de vue des essences d'arbres, est-ce qu'on a des indications sur ce qu'il y avait
Alors, on a des indications pour les périodes les plus récentes, donc celles qui sont contemporaines de l'atelier, puisqu'on retrouve les graines carbonisées dans les résidus de combustion. Donc on sait que dans ces fours, ils brûlaient essentiellement du boisement de garrigue, donc le chêne vert et tout le cortège d'essence de bois qui accompagne le chêne vert dans la garrigue.
Un peu comme aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Et après, on a quelques graines qui sont plutôt liées aux exploitations de la villa, à savoir à des céréales, quelques arbres fruitiers, notamment de ces arbres fruitiers. Alors, c'est probablement pas cultivé sur place, mais on a du coup retrouvé du noisetier.
Ça pousse
un petit peu.
Un petit peu, ouais.
C'est pas trop le...
Il y en a pas très loin d'ici.
Ouais. Mais voilà, c'est plutôt dans des zones qui vont être un peu plus fraîches.
Oui, elle est bien à l'abri du vent et voilà.
Donc il y a des chances quand même que ça soit des choses qui soient juste importées pour la consommation.
Et alors là, évidemment, c'est pour faire semblant, ces cols d'amphore qui dépassent là
Alors oui, là, alors ces cols d'amphore, je les ai amenés ici parce que comme en ce moment je fais des visites et ça permet de monter vraiment dans ce hangar qui... utilisé au IIe siècle comme hangar de tournage pour les amphores, et ces cols ils sont timbrés, on a le nom du propriétaire qui apparaît, et ça permet de montrer au public.
Ah, on ne peut pas l'emporter alors.
On ne peut pas l'emporter, non, je suis désolé.
On croyait que c'était pour nous, bon tant pis.
Oui, bon,
je ne peux pas faire les visites.
On reviendra.
Je me disais, il n'y en avait que deux et on est cinq, donc c'est pas ça.
Mais par contre, ce que vous pouvez voir un petit peu derrière, c'est qu'on a reconstitué un des dépotoirs d'amphores qui a été créé sur le site, à partir de toutes les ponces qu'on a sorties des couches archéologiques depuis 2019. Je pense qu'on ne peut pas stocker dans les dépôts parce que ça prend trop de place. Mais au moins, on remet un peu l'image de ce à quoi ça ressemblait il y a 2000 ans.
Sors ta truelle et prépare ta pioche et ta pelle. Attrape ton seau et prie pour qu'il fasse très beau. Enlevons toute cette terre. Il y a tant à trouver, tant de mystères. Qui se serait douté que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, et tourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur un homme. Tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe à simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir distinguer, croyez-moi, c'est tout un métier. Indiana Jones, ce n'est pas un archéologue. Patience, prudence et évidemment de la méthode. Truelle en main. tout un tas de spécialistes afin d'écrire une histoire réaliste.
Donc, deuxième partie de l'émission Antiquissimo. Nous nous sommes déplacés. Et qu'est-ce que nous allons voir, Fabrice, désormais?
Alors, ici, vous êtes devant le petit balnéaire de notre villa. Balnéaire qui a une histoire très complexe. Puisqu'on voit que la seule pièce qui est encore conservée, ça correspond au caldarium. Mais on voit qu'il a été agrandi puis réduit au cours du temps. C'est-à-dire que dans un premier temps...
Oui, on aurait pu penser l'inverse.
C'est ça. Dans un premier temps, la pièce est juste limitée à cet espace. Vous voyez? Et les gros massifs que vous avez ici, ça soutenait probablement une voûte. Et sur lequel, comme ils sont très massifs, parce que ça soutenait la chaudière. Puisqu'on est dans le caldarium, c'est là, c'est la pièce qui va être... On va se faire chaud, on a besoin d'eau chaude.
On a des traces du système d'hypocauste ou pas du tout?
Alors justement, les traces du système d'hypocauste, on les a. Si vous regardez bien, vous voyez qu'ici on a des taches.
Ah oui.
Oui. En fait, ça, c'est les empreintes de nos briques.
Les pilettes, oui.
C'est ça, qui se superposent.
Oui, là-bas, ici, il y en a plusieurs.
Une, deux, trois, quatre lignes qui sont disposées là. Il faut s'imaginer que ces briques, elles se superposent pour faire sur une soixantaine de centimètres et que le gens qui allait se baigner marchait beaucoup plus haut que Nouma.
Pareil, on est toujours au sous-sol quelque part.
Exactement, on est au sous-sol. Et donc, ce petit balnéaire, on voit que quand la villa s'agrandit probablement, ils vont l'agrandir, ils vont augmenter la taille du sol en béton de tuyau, donc bien sûr l'hydraulique qui est fait ici. Ils doivent le déplacer, sauf que au moment où on construit le grand hangar dans lequel est installé notre four, ils sont obligés de réduire ce balnéaire et ils reconstruisent des murs
là.
Et ils refont un nouveau préfornium, donc l'endroit où on va faire le feu, à cet emplacement. Il faut s'imaginer que le grand trou qu'on a ici, en fait, c'est une fosse qui est sans doute liée à la récupération des matériaux de construction qui ont servi à aménager ce préfornium. Voilà. Donc, nous, au moment où on a débuté la fouille, on ne savait pas sur quoi on allait tomber. C'est pour ça que vous voyez qu'on fait des tranchées rectangulaires pour pouvoir à la fois voir notre stratigraphie, l'évolution des couches dans le temps, et puis voir si à la base de nos couches, on n'a pas encore conservé les vestiges. On en a fait une ici. On en a fait une directement à l'est de notre pièce, parce qu'à l'est de notre pièce, c'est là où on supposait la présence soit de notre épidarium, la pièce tiède, soit, et peut-être les deux, de notre épidarium, la pièce froide. Sauf que, pour les mêmes raisons que ici, on est en sous-sol, dans cet espace, comme on est sous le sous-sol de la pièce, et que si on a un frigidarium, il n'y a pas besoin d'avoir un sous-sol sur le sol. Tout a disparu. Reste à savoir où est l'épidarium. C'est possible qu'il ait existé durant une époque, et que cette première pièce, et utilisé durant un temps comme pépitarium, au moment où ça s'agrandit, et au moment où il se réduit, là on a juste besoin de petits bains pour la main-d'œuvre, pas de quelque chose de luxueux, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait juste une pièce chaude associée à une pièce froide.
Oui, c'était justement une de mes remarques, c'est que c'est pas très grand comme installation thermale, donc on peut pas supposer que ce soit pour les habitants, c'est l'usage de ceux qui travaillent ici.
Alors oui, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que au moment où le dernier état qu'on voit aussi ici, c'est pour la main d'œuvre. Après, dans un premier temps, il est possible qu'au moment où ils construisent le premier état de la villa, ils fassent assez rapidement un balnéaire avec des moyens qui j'imagine que c'était un très très grand chantier pour construire cette villa, et donc qu'ils fassent quelque chose d'assez modeste dans un premier temps, qu'ils agrandissent ensuite dans ce sens des moyens qui sont disponibles pour le propriétaire. Ça reste quand même une supposition, bien sûr, parce que nous on s'appuie sur les vestiges qu'on découvre, et malheureusement ils sont pas toujours très bien conservés. Voilà, mais vous voyez que dans cet espace on a continué de faire des tranchées, toujours avec cet objectif de voir comment les pièces s'organisent.
Ça se ferme.
Vous voyez que là on a un prolongement de mur. Et prolongement, on observe, vous voyez, l'équipe de fouilles qui poursuit son travail de relevé de l'autre côté de la route. En fait, ils sont au niveau d'un mur qui vient fermer notre villa. Et
Et donc là, on était dans la propriété d'à côté.
On était toujours dans la villa. Mmh. C'est juste que le chemin actuel a coupé notre aile est de la ville. Donc il a fait disparaître tous les vestiges qui sont bien sûr entre l'extrémité du mur qu'on voit de notre côté et le mur sur lequel sont les fouilleurs actuellement. Voilà, mais ces murs, quand on les regarde vraiment dans le détail, on voit qu'il y a une histoire très complexe, c'est-à-dire qu'il y a un premier état avec des murs, et puis qu'au fur et à mesure des besoins des occupants, ils vont cloisonner l'espace, reconstruire des murs, cloisonner l'espace.
Oui, là, derrière,
alors là, vous avez un mur qui part comme ça, ici vous avez deux murs, ouais. Et probablement qu'au moment où ces deux murs existent, ici, comme l'espace est très étroit, on peut avoir une cage d'escalier qui va pouvoir permettre de monter dans les étages de notre villa.
Oui, parce que de l'autre côté, il n'y a rien.
Et là-bas, il y a une partie arrondie.
Dans la coupe
Dans le mur, là.
Il y a un cintre, là, oui.
Ça. Alors ça, en fait, c'est les parties arrondies que ça. Et en fait, il faut s'imaginer qu'il y a des charrues qui sont passées.
Et qui ont sectionné
cette pierre et qui l'ont fait se décrocher,
se décaler. D'accord.
Mais vraiment, le parement de notre mur était juste là. C'est celui relativement bien. Voilà, donc dans cet espace ici, outre ces petits thermes, on sait qu'on est dans l'espace de vie des occupants de la villa parce que c'est ici qu'on a recueilli l'essentiel des objets de la vie quotidienne.
Comme par exemple.
Comme des épingles pour mettre dans les cheveux,
ah.
Des jetons pour jouer. On a aussi toute la céramique qui va servir à faire à manger. Les marmites, les plats, les viandes, exactement.
Et ça, ce sera l'objet d'un musée à venir ou pas?
Alors, il y a déjà une salle d'exposition au Mas d'Étoiles.
Oui.
Et dans le cadre de la mise en valeur, on va effectivement prendre les plus beaux objets. Alors souvent, on les retrouve cassés sur les sites, donc on va les remonter pour qu'ils soient exposés, pour voir un petit peu parmi les plus beaux objets qui ont été mis au jour sur le site. Sachant que ce musée, il a aussi pour vocation de montrer ce qu'on retrouve en archéologie sur un domaine rural comme celui-ci. Donc on va pas montrer que des choses très spectaculaires, mais on va essayer de montrer la vie quotidienne des gens.
Ouais, ouais.
Et par exemple, on a retrouvé sur cette année, sur cette campagne, on a retrouvé un fond d'amphore dans lequel qui était rempli de mortier. Mmh. Et c'est ni plus ni moins qu'une gamate. Les gamates,
oui.
C'est ces vagues qui servent à gâcher le mortier.
Oui, oui. Parce qu'on récupérait tout en fait.
Voilà. Ils n'avaient pas des gamates en plastique comme on a aujourd'hui. Ouais. Ils avaient un fond d'amphore qui était cassé, c'était bien pratique. Ils ont fait leur mortier dedans. Et à la fin, quand ils ont fini de construire leur mur, ils l'ont laissé dans un remblai. Et nous, 2000 ans après, on revient, on trouve ça, qui a épousé parfaitement la forme du fond d'amphore. Ça nous montre vraiment la vie quotidienne à l'époque, comment le maçon, de manière très pratique, prend ce qui lui tombe sous la main pour pouvoir faire son mortier.
Et ce musée, vous comptez le faire ici?
Dans les salles à l'intérieur du Mas d'Étoiles.
D'accord. Ouais,
il y a déjà une salle qui est avec
qui est dédiée aux jeux, enfin il y a beaucoup de choses.
Il y a une salle avec les jeux, et là c'est une salle avec des vitrines dans laquelle on va pouvoir mettre par vitrine, faire une vitrine par thématique.
Oui, ça complétera la visite.
Exactement.
Et alors, un détail pratique, quand on prend le billet pour rentrer au Mas d'Étoiles, ça comprend tout ça.
Exactement.
Pour les auditeurs, ils peuvent tout faire. Voilà.
C'est ça, ils peuvent venir visiter le site, voir les objets archéologiques qui sont exposés, et puis aussi la reconstitution de la cave romaine,
et
de la parfumerie romaine aussi.
Oui, c'est vrai que vous êtes lancé dans la distillerie des parfums aussi.
Alors, elle n'a pas encore été mise en fonction,
parce que j'allais dire...
Vous en aviez parlé la dernière fois.
La vente,
encore, mais ça viendra. On l'inaugurera. Comme on passe sur la phase de mise en valeur, vraiment, on aura plus de temps pour travailler là-dessus.
Et pour publier aussi, parce que... Voilà.
On travaille sur la publication de la monographie du site, vraiment toute l'histoire du site. Et après, on a quelques publications annexes, dans les catalogues d'exposition, et puis des trucs très thématiques. On parlait tout à l'heure, au début de la visite, du combustible pour les fours. Voilà, il y a les spécialistes qui ont travaillé là-dessus, Christophe Achat et Justine Gomez, qui vont publier un article prochainement qui va être consacré à cette problématique-là.
Et cet article, il ne va pas être diffusé grand public, j'imagine que c'est dans le réseau interne au début.
Oui, ça, c'est des articles qui sont vraiment pour les...
pour les archéologues.
Voilà, en revanche, le catalogue d'exposition, qui donc c'est une exposition sur justement le vin, l'huile et le parfum en Méditerranée. Ça sera beaucoup plus grand public. Ce sera une exposition qui sera réalisée à Paris. Et après, le fascicule sera disponible
ici. Ici et partout. Et alors, vous diriez que vous êtes plutôt satisfait de cette campagne de fouilles qui a tenu ses promesses? Vous êtes déçu? Enfin, quelle est votre impression?
On est très satisfait parce qu'il y a plusieurs choses et on ira voir, on terminera la discussion parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais l'heure avance. Ça va, on a le temps. Mais voilà, on avait des problématiques bien précises pour cette campagne. On en a toujours sur les campagnes de fouilles. On réussit à tous les atteindre.
Oh, c'est beau.
Donc ça, c'est très intéressant. En plus de ça, on avait des questions qu'on se posait depuis le début des opérations qui ont débuté en 2019, comme où est-ce qu'est le chef de la villa, où sont les bassins pour le traitement d'argile, où sont les puits, et on a répondu à chacune de ces questions. Alors, dans des campagnes
c'est
précédentes,
une belle chose.
Certes, mais cette année, on a de nouveaux éléments qui ont été mis au jour. Le chai, on en a déjà parlé. On a également mis au jour un nouveau puits et on a mis au jour un bassin pour le traitement de l'argile qui est lié à la dernière phase de notre atelier, la phase du 3e siècle. On va pouvoir aller voir maintenant si vous voulez bien.
Eh bien, allons-y. C'était donc la première émission consacrée au Mas des Tourelles et à cette campagne de fouilles qui, en 2024, est en train de s'achever. Nous retrouverons Fabrice Bigot, l'archéologue responsable à la fois de ce chantier de fouilles et de tout ce qui s'en suivra, aidé bien sûr de toute une équipe. Nous le retrouverons la semaine prochaine pour la deuxième émission. Au revoir.